Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Après avoir placé 1001 espoirs dans sa relation avec Jacques Cassis, avec lequel elle s'est fiancée, la vie assène encore un autre coup inattendu et terrible à Lézou-Marie. Jacques, avec le soutien de sa famille, l'accuse d'infidélité et l'abandonne brutalement alors qu'elle porte leur enfant. Soudainement, Lézou-Marie se retrouve livrée à elle-même sans emploi ni toit. Pourrait-elle s'en sortir toute seule? Pourrait-elle faire face aux exigences de sa grossesse? Lézou-Marie ou les écueils de la vie, chapitre 7.
Abattue par le contenu de la lettre qu'elle venait de recevoir, Marie demeurait inerte dans le fauteuil où elle était tombée, comme frappée par ces mots que la mère de Jacques, d'une main qui ne tremblait pas, lui avait écrits.
« Mon enfant, pourquoi avoir agi comme tu l'as fait? Jacques est désespéré. Tu l'as tant déçu. Si tu n'étais pas heureuse avec notre fils, pourquoi ne pas l'avoir dit? Le scandale eût été moins grand que celui que tu as provoqué en apportant dans votre foyer une grossesse qui n'est pas de Jacques. Ce que tu ne savais pas, c'est que Jacques ne perdait rien de tes faits et gestes. Avant de te connaître, il fréquentait une fille d'ici, mais c'était toi que notre enfant voulait comme épouse. Depuis le retour de Jacques, nous lui avons conseillé de reprendre ses relations avec celle qu'il aimait toujours. Ils se sont mariés hier avec notre accord. Il ne faut pas oublier ceci. Jacques t'aimait et t'aime encore. C'est pour cela qu'il te permet de rester encore dans la maison jusqu'à ce que le nouveau locataire vienne en prendre possession dans 2 mois.
Marie ne lut pas la fin de la lettre. Le regard perdu dans le vide, elle murmurait.
Oh non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Jacques, abandonne-moi froidement dans la misère, je l'accepterai. Mais faire peser sur moi une calomnie de cette taille, une souillure de cette espèce, non, c'est trop injuste.
Marie, fatiguée par ses longues nuits de veille, supportait difficilement sa grossesse. Elle comprenait à présent pourquoi l'on se détournait d'elle. Tous la croyaient une fille de mauvaise vie, une femme infidèle qui portait dans ses entrailles le fruit de sa trahison. Seulement, elle ne fléchirait pas. Seul Dieu pouvait la juger impartialement. Elle n'était pas coupable, il aurait donc pitié d'elle. 2 mois pour trouver du travail, cela ne serait pas facile. Elle acceptait d'être une sténodactylo mal payée, mais les entreprises n'embauchaient que les femmes expérimentées. Où donc acquérir cette fameuse expérience si aucune maison ne vous prenait à son service à la fin de vos études? Lasse des rebuffades, Marie avait demandé à Madame Bourssou, la cousine de Jacques, de l'aider. Elle lui proposa d'acheter les robes que Jacques lui avait offertes lorsqu'ils vivaient ensemble. Compréhensive, la dame avait accepté. Quand Marie était venue se confier à celle qui avait été sa compagne depuis le départ d'Evelyne, Madame Bourssou l'avait calmée de son mieux et lui avait dit
« Ma chérie, je sais que tu es innocente. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. C'est ce qu'a fait Jacques. Il a toujours été un Don Juan. Avec toi, il semblait avoir tellement changé que nous avons tous cru qu'enfin il se rangeait. Je ferai l'impossible pour toi. »
Mais Marie était orgueilleuse. Elle n'accepterait jamais la charité de personne. Ses relations avec Irène Bourssou devaient être uniquement commerciales. C'est ce qu'elle avait décidé. Avec l'argent retiré de la vente des robes, Marie commença à se chercher un logement. Mais ses continuelles maladies l'obligeant à acheter des médicaments et à se déplacer en taxi-compteur, le pécule fondait rapidement. Elle avait écrit aux religieux du foyer où elle vivait avant ses fiançailles. Marie savait que les sœurs ne lui refuseraient pas la faveur qu'elle leur demandait. Seulement, elle allait devoir payer sa chambre. Une idée germa dans l'esprit de Marie. Faire du porte-à-porte afin d'obtenir une place de bonne ou de cuisinière. Elle la mit aussitôt à exécution. Les résultats furent décevants. On embauchait la pauvre fille quelque temps. Si Marie lavait le linge, l'odeur du savon et de l'eau de Javel la faisait vomir. Si elle faisait la cuisine, l'odeur des sauces la torturait. Aussi, ses patrons ne pouvaient-ils la garder longtemps. Il ne se passait point une journée sans que Marie verse des larmes de désespoir. Mais comme la nuit porte conseil, elle se levait toujours le lendemain, prête à combattre pour sa vie et celle de son enfant. Elle n'abandonnerait pas. Cet enfant naîtrait et elle était sûre qu'il ressemblerait à son père. Fils de personne, il viendrait au monde. Fils de personne, il le quitterait. Un jour de plus s'était levé sur la triste vie de Marie, la mal-aimée. Chaudement habillée, elle sortit sous la pluie fine qui tombait ce matin-là. Elle fut subitement prise de vertige. Ne sachant où se mettre à l'abri, en attendant de retrouver tous ses esprits, Marie s'adossa au portail d'une maison. Elle appuya sans le savoir sur la sonnette d'entrée. On ouvrit aussitôt. Marie vit une jeune femme qui la dévisageait avec surprise. Confuse, Marie s'excusa. Mais la jeune femme, avec un sourire engageant, la pria d'entrer. L'intérieur de la maison était luxueux. Marie eut l'impression de rêver quand la maîtresse de maison la fit asseoir dans un fauteuil moelleux et lui tendit un bol d'infusion. Marie y trempa les lèvres d'abord, puis but le contenu de la tasse. Madame Conan, c'était son nom, invita Marie à partager son petit déjeuner, chocolat au lait et tartines beurrées. Elle n'osa refuser. L'enfant bougeait dans son ventre à une allure telle qu'elle ne pouvait prolonger son jeûne plus longtemps. Au beau milieu de son repas, Marie éclata en sanglots. Interloquée, Madame Conan resta la cuillère en l'air. Elle se leva et vint s'asseoir à côté de Marie. La malheureuse lui récita d'un trait le discours qu'elle avait préparé pour demander du travail.
« Madame, n'avez-vous besoin de personne ? Je sais faire la cuisine, la lessive, m'occuper des enfants. » Je ne demande pas beaucoup d'argent, juste de quoi vivre. »
Madame Conan, émue aux larmes, demanda à Marie de lui parler en toute confiance. Marie avait atteint le point de non-retour. Elle n'était plus retenue par une quelconque fierté. Elle raconta tout, la mort de sa mère, l'abandon par son père et son fiancé, et les difficultés auxquelles elle était confrontée depuis près de 2 mois. Madame Conan lui parla à son tour.
« Pauvre enfant, comme j'ai de la peine pour toi. À me voir comme je suis, tu pourrais penser que j'ai tout pour être heureuse. Et pourtant, je vivais paisiblement avec mon mari, un homme bon, un père accompli et un époux charmant. Un jour, il partit en week-end avec des amis alors que j'étais en congé de maternité chez mes parents, à Dabou. À leur retour, il pleuvait. Comme il était myope, mon mari passa le volant à un des passagers. Celui-ci, au tournant de la maison hantée, voulut doubler une file de véhicules et alla percuter un grumier venant en sens inverse. Le choc fut inévitable. Le chauffeur mourut sur le coup. L'autre passager n'eut rien. Mon mari, lui, devait décéder de ses blessures au centre hospitalier universitaire de Cocody. Je crus en mourir. Il y avait notre fils. J'ai remonté la pente, mais une autre surprise m'attendait. Quand il eut 6 mois, je m'aperçus que mon fils ne voyait pas. Je parcourus les hôpitaux, contactai des médecins en vain. Puis, je me suis résigné alors. Le problème des bonnes a commencé à se poser. Aucune ne s'occupait efficacement de l'enfant. Leur seul souci était de me voler pagne et bijoux et de disparaître. Mon congé annuel va s'achever et je me demandais comment faire garder mon enfant. La Providence vous a mis sur mon chemin. Je vous donnerai ce que vous voulez, pourvu que vous aidiez Antoine à satisfaire ses besoins. Et je sens que vous allez vous entendre. Il y a une chambre où vous pourrez vous installer dès aujourd'hui. Nous mangerons ensemble. Je ne vous considère pas comme mon employé, mais comme ma sœur. »
Marie ne savait comment remercier cette femme et la destinée qui avait provoqué leur rencontre. La pluie, entre-temps, s'était arrêtée. Un splendide soleil brillait au firmament. Marie, accompagnée par le chauffeur de sa nouvelle patronne, alla chercher tout ce qui lui appartenait dans l'ex-maison du bonheur. La nouvelle vie de Marie l'embellissait. Elle prenait du poids et des couleurs. Le travail de Marie consistait à faire la toilette d'Antoine, à lui donner à manger, à lui faire la lecture ou bavarder avec lui. Quand il voulait satisfaire un besoin quelconque, il suffisait à la jeune femme de guider Antoine. Alerte et sympathique, le petit infirme n'était pas un fardeau pour elle. Il aimait se tenir contre le ventre de Tata Marie parce qu'il était chaud et mouvant. Parfois, Marie se penchait et parlait à l'enfant qu'elle portait, comme s'il comprenait ce qu'elle disait. Louise Conan, presque tous les jours, apportait à Marie un peu de layette. La valise que Marie avait achetée se remplissait petit à petit. Celle-ci regrettait d'avoir à se séparer de Marie pour quelque temps. Le moment de la naissance approchait. Marie avait reçu une réponse positive des religieuses. La mère du petit Antoine eut beau insister. Marie ne voulut pas rester à Marcoury pour accoucher. Il n'y avait personne pour s'occuper d'elle, alors qu'au foyer, il aurait toujours quelqu'un. De son côté, Marie était navrée d'être obligée de quitter celle qu'il avait secourue dans le besoin. Elle s'excusait à la moindre occasion. Cependant, Louise Conan ne lui en voulait pas, puisqu'elle comptait sur le retour de Marie et de son enfant. Madame Conan invita alors Marie à l'accompagner à la banque et à la poste le lendemain matin. Elle voulait ouvrir à la poste un compte épargne pour Marie. Rien de tout cela n'était nouveau pour Marie, car lorsqu'elle habitait chez Jacques, elle avait la procuration sur le compte personnel de son fiancé. Marie accepta l'offre. Elle rassembla toutes ses économies et les mit dans une enveloppe. C'était une somme rondelette, assez importante pour une mère et son enfant. Après la poste et la banque, Louise Conan accompagna Marie au foyer. Au moment de se quitter, Marie, des larmes plein les yeux, ne se décidait pas à laisser sa bienfaitrice.
Adieu, Louise, ma sœur.
Pourquoi adieu ? Au revoir, ma sœur. Reviens vite, nous t'attendons. Fais-moi téléphoner dès que tu auras accouché. Ne pleure plus.
Les deux sœurs s'embrassèrent plusieurs fois et remontant dans sa voiture, Louise Conan reprit le chemin de sa maison. Elle avait le cœur gros parce que la maison serait vide sans Marie. Cependant, elle pensait que Marie aimait se confiner dans la tristesse. Il est vrai que la vie ne lui avait pas fait connaître beaucoup de joie. Une religieuse vint à la rencontre de Marie et appela deux jeunes filles du foyer pour porter les valises dans la chambre préparée pour elle. Par la fenêtre ouverte, entrait l'air parfumé par les fleurs du jardin. Les oiseaux sautillaient de branche en branche et saluaient la nature en fête. Sans s'en apercevoir, Marie s'endormit dans la quiétude, comme une bienheureuse. Même la cloche de midi ne put la faire sortir de son lit. D'ailleurs, Marie bougeait à présent à grand-peine. Elle attendait le jour de la délivrance avec appréhension et impatience à la fois. Marie aurait certainement dormi toute la journée si les sœurs ne l'avaient pas obligée à se lever, à faire un peu d'exercice physique et à manger. Elle se promenait dans le jardin. En voyant sur des feuilles les tout petits escargots à coquilles rayées, Marie revint en arrière au temps de son enfance campagnarde. Elle se revit dans la case de la vieille Nguissan, sa grand-tante. Les rares fois où elle avait pu y séjourner, lorsque le matin elle se réveillait l'estomac dans les talons pour n'avoir pas mangé la veille au soir, la tante lui servait un bon bol d'attiéké avec une sauce au poisson frais et au bassin, sauce toute rose à cause de l'huile de palme et du piment séché. Ce qu'elle aimait dans ses escargots, c'est qu'on les lavait, on les faisait cuire dans leurs coquilles et pour les manger, on cassait avec les dents l'arrière de la coquille, puis on aspirait l'escargot par le devant. On le séparait délicatement à l'aide des dents de ses intestins qu'on rejetait avec la coquille. Fatiguée, Marie rejoignait la maison où l'attendait une bonne omelette et du pain sans sel. Deux semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Marie au foyer. Tranquillement, elle avait préparé une place pour la venue de son enfant. Du modeste berceau de bois ordinaire, elle avait fait un nid douillet avec du tissu fleuri. La corbeille d'osier avec laquelle elle pourrait transporter l'enfant, elle aussi, avait été transformée en un objet de luxe qu'enviraient bien des femmes, tant Marie avait fait preuve d'adresse en la recouvrant de fines toiles unies, bordées du même tissu que celui du berceau. Au milieu de la chambre, derrière le paravent, Marie avait fait preuve d'ingéniosité pour créer un coin toilette. Marie fit retirer son lit de l'alcôve pour y placer celui de son enfant. Jamais future mère n'avait été aussi préoccupée du confort de son bébé. Cet enfant était son seul bien au monde.
C'était plaisir de lire des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Présentation et réalisation Aussi Potin.